Bonjour, bienvenue au webcast Back from Build spécial Kinect for Windows version 2. Je suis Vincent Guigui, Kinect MVP et expert en technologie innovante à Octotechnologie. Je suis accompagné par Fabrice Barbin, lui aussi MVP Kinect et fondateur de Synergies. Donc Kinect, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Fabrice, tu peux nous en dire un peu plus?
Alors effectivement, faisons un petit focus sur le capteur Kinect. La technologie Kinect est déjà là depuis quelques années maintenant. C'est avant tout un capteur qui va embarquer une caméra, des détecteurs de profondeur et des réseaux de micro. L'objectif, en fait, via ce dispositif, ça va être de pouvoir créer des technologies, des dispositifs qui sont pilotés par le geste ou par la voix. Alors c'est dans les cartons de Microsoft déjà depuis de longues années, sous l'angle code projet Natal initialement, et ça a été mis sur le marché avec la Xbox 360 il y a quelques années, donc vraiment sous l'angle jeu. C'est un capteur qui a bien évolué. Le SDK a été rendu public, donc avec cette volonté de donner les capacités du capteur, de les mettre dans les mains des développeurs pour voir les nouveaux usages qui pouvaient en être créé, et avec une version Kinect pour Windows, une déclinaison pour PC, là où on était initialement sur la Xbox, donc une déclinaison pour PC qui est apparue en 2011. On a fait maturer quelque part ce SDK mois après mois, cinq releases depuis sa sortie, une adoption assez massive avec plus d'un million de téléchargements, une grosse communauté de développeurs, 400 000 développeurs à travers le monde. Et là, on passe à un nouveau tournant avec l'arrivée d'un capteur de deuxième génération, donc qui vient apporter encore plus d'améliorations sur le dispositif. Donc ça a été annoncé en novembre dernier avec le lancement de la nouvelle version de la Xbox. Et on a annoncé en même temps, effectivement, la sortie d'une nouvelle version du capteur dans sa déclinaison pour Windows. Alors ce lancement a été fait avec un programme alpha, hein, un certain nombre de personnes qui ont été sélectionnées, on va dire, pour participer sur une évaluation préalable du capteur, un programme qui s'appelle DevKit, qui est encore en cours. Et on nous annonce la sortie prochaine du capteur, donc la mise sur le marché durant l'été, de la release en fait du capteur Kinect pour Windows, donc V2.
D'accord. J'ai entendu dire qu'il y avait environ 3 ou 4 000 testeurs de ce nouveau Kinect pour Windows. Testeurs et développeurs qui contribuaient à l'épanouissement du SDK.
Voilà, donc c'est des personnes qui ont adopté le capteur dans cette toute première version avec des SDK alpha, alors des SDK qui évoluent mois après mois. Et là, effectivement, ces personnes sont en train de créer les premières réalisations sur Kinect pour Windows V2.
Mais je crois que tu en fais partie, justement.
Toi également.
Oui. Donc le Kinect, ça a l'air bien, mais à quoi ça peut servir au quotidien?
Alors sur l'usage Kinect, on l'a dit, ça a été amorcé par le côté jeu, par le côté gaming, mais bien rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller bien au-delà, et notamment avoir des usages professionnels, métiers, extrêmement pertinents avec ce capteur. Alors si on réfléchit, capteur de profondeur, capteur 3D, pilotage par le son, on imagine pas mal de choses, de la réalité augmentée, du pilotage et de l'affichage interactif. On va pouvoir être également sur des dispositifs d'analytique, on va pouvoir suivre les mouvements des personnes, mesurer des mouvements, tout ce qui va être bien évidemment numérisation 3D, et puis de façon plus générale, tout ce qui va être contrôle sans contact, contrôle à distance. Alors, ça se décline sur énormément de secteurs d'activité. Bien évidemment, sur le domaine du retail, on va retrouver ce genre de dispositifs sur
des vitrines interactives.
Vitrines interactives, essayage virtuel, ajustement de gamme également. On va retrouver des déclinaisons également dans le domaine de l'éducation, donc tout ce qui est environnement, on va dire, immersif ou acquisition de savoir, non pas simplement par la parole, mais par le geste. Ou plus professionnellement, on va dire, sur de la simulation du serious game ou de la simulation de gestes métiers. Donc là, sur l'enseignement, on a également pas mal de choses. Sur le domaine de la santé, tout ce qui est bien évidemment pilotage sans contact, donc on imagine les gains sur tout ce qui est environnement stérile, bien évidemment. Tout ce qui va être également lié à la domotique, à la robotique, à l'industrie, et puis un certain nombre d'usages également sur des thèmes de sécurité avec la détection de personnes, voire des sujets moins marchands, on va dire, et on va aller également vers les arts numériques. Donc un panel d'usages qui s'étend de jour en jour.
D'accord. C'est la tendance des interfaces naturelles ou interfaces gestuelles, voilà. Qui est vraiment au quotidien depuis même l'année dernière ça continue encore cette année.
Exactement.
Avec le boom des capteurs 3D et capteurs de mouvement.
Voilà. Alors je te propose qu'on fasse un zoom du coup sur cette nouvelle version du capteur, donc Kinect pour Windows V2.
Pour nos spectateurs.
Qu'on voit voilà, sur le plateau. En fait, un capteur qui par défaut va nous donner trois types de flux d'informations quand on va le brancher sur un PC. Le premier, ça va être tout simplement un flux couleur, un flux caméra.
Le flux RGB couleur.
Voilà, flux RGB classique. Si ce n'est que par rapport à la V1, déjà on passe en HD. Donc déjà, on gagne en résolution. Et plus qu'en résolution, on gagne également en angle de vision. Donc on était sur un angle d'ouverture en horizontal à 57 degrés sur la première version. Là, on passe à 70. Donc on voit déjà qu'on est capable de couvrir quelque part un environnement d'analyse beaucoup plus large. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. On gagne vraiment en qualité. On va retrouver en complément de cette image classique une analyse vraiment de profondeur. Donc de l'analyse vraiment 3D de l'environnement qui est devant le capteur. Là également, on a des bonnes améliorations puisque déjà on a un saut technologique. On est maintenant sur du time to fly, donc ce qui veut dire que en termes de finesse, on va être sur une technologie qui va être beaucoup plus appropriée pour de l'analyse précise de l'environnement 3D.
C'est plus robuste par rapport à la lumière structurée qui était utilisée dans le premier Kinect.
Voilà, tout à fait. On va avoir également une adaptabilité du flux en fonction des conditions d'éclairage. Donc le capteur va savoir de lui-même adapter le débit en fonction de son environnement. Alors par défaut, on va remonter 30 frames par seconde. Si on est dans des conditions d'éclairage un petit peu particulières, le capteur par lui-même va être capable de descendre à 15 frames par seconde pour garder cette finesse de signal.
En augmentant le temps d'exposition, donc moins de frames par seconde.
Voilà, exactement. Donc on a moins de frames, mais on garde la qualité. Donc c'est le compromis qui a été trouvé. Et puis également, on va revoir le mode de fonctionnement, le mode de l'angle de captation, là également de la profondeur. C'est-à-dire que sur la V1, on était sur deux modes complémentaires. On avait un mode de proximité, quand on savait que les utilisateurs étaient très proches, et puis un mode, on va dire, standard.
C'est le near mode.
Le near mode et le mode standard. Là, cette notion de différenciation, on la perd complètement. On est sur une seule analyse et on va aller de 50 cm à peu près 4,50 m de profondeur d'analyse. Donc on est là également sur quelque chose qui est plus simple, on a un seul mode, et plus global, on va beaucoup plus loin.
Mais plus précis. Donc ça, c'était les flux bruts venant du matériel, du hardware. Voilà. Quels sont les autres flux fournis par le SDK ?
Alors, juste avant de passer sur les flux, on va dire, analysés, qui vont nous donner quelque part de la valeur ajoutée au niveau, il faut préciser qu'en plus de la couleur et de la profondeur, on a un dernier flux qui est également intéressant, c'est le flux infrarouge. Ce flux infrarouge, en fait, on va pouvoir l'activer quand on va être dans des environnements très sombres. En fait, on va pouvoir retrouver une qualité d'analyse d'image proche de la lumière naturelle, alors qu'on est sur quelque chose de très sombre, et notamment tout ce qui va être potentiellement fluctuation de lumière. Quelqu'un qui d'un seul coup amène de la lumière sur la scène va être complètement gommé. Donc, on va rester avec une qualité d'image permanente extrêmement fine. Donc, ça, c'est les trois modes, on va dire, qu'on va trouver en flux brut, donc couleur, profondeur, infrarouge. Et derrière, on va ramener de l'intelligence en fait par du calcul. Donc, on va avoir un premier mode qui va être le mode squelette quelque part, ou analyse des bodies, ce qu'on appelle le body mask, qui va nous permettre en fait de l'image d'extraire des silhouettes de personnes. On va être capable d'extraire d'une scène en se disant, bah là j'ai une personne, deux personnes, trois personnes, et on va pouvoir aller comme ça jusqu'à une détection de six personnes. Ce qui veut dire que globalement, sur un rendu d'image, on va être capable de dire, bah ce pixel très précis, il appartient à la personne numéro 1 ou à la personne numéro 2. Une fois qu'on sait agréger quelque part ces pixels, les attacher à une personne, on va pouvoir ramener de l'intelligence également sur la détection de points singuliers. Et là, on va aller sur la notion de body, donc ces frames particulières, ce flux particulier qui va être capable de nous dire, ben voilà, sur cette image d'une personne que j'ai identifiée, je suis capable d'aller plus loin, je suis capable d'identifier des points singuliers, la main, le coude, l'épaule, et ainsi de suite. Et on va pouvoir repérer comme ça jusqu'à 25 points singuliers par personne.
C'était ce qu'on appelait le skeleton pour les versions précédentes.
Voilà, c'est ce qu'on appelait le skeleton avant, qui était à 20 points. Là, on passe sur un changement de langage, on va dire, on appelle ça maintenant le body. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe à 25 points. Ils ont amélioré le dispositif, on va dire, pour être plus conforme, tout simplement, au corps humain, pour que les jonctions se fassent.
Du corps humain.
Voilà, exactement. Le mot mécanique n'est pas anodin d'ailleurs, puisque c'est aussi une des belles évolutions qu'on a entre la V1 et la V2, c'est que sur la V1, on avait simplement la représentation spatiale, donc en trois dimensions, d'un point particulier. La main, j'étais capable de la positionner en X, Y, Z. Maintenant, pour chacune des jointures, je vais être en plus capable de donner une notion d'orientation dans l'espace. Donc on rajoute en plus de la... la rotation. Donc on rajoute de l'intelligence, et notamment on voit tout le gain qu'on peut avoir quand on est sur de l'animation d'avatar, où là on est capable effectivement d'avoir les vraies orientations des différentes jointures.
Et puis, donc, il y a une inférence des contraintes biomécaniques du corps humain.
Exactement. Donc on reste sur des mouvements qui sont absolument réalistes et on évite d'avoir un bras qui est plié dans un sens totalement illogique. Donc ça, c'est les premiers éléments, on va dire, d'intelligence. Et puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a la reconnaissance. On a parlé des micros tout à l'heure qu'il y avait dans le capteur. Donc on va être sur de la reconnaissance en tant que tel audio. On va pouvoir faire du suivi de personnes en audio. On va pouvoir faire de la reconnaissance de voix. On va pouvoir également aller sur de l'analyse de la face, donc ce qu'on appelle sur cette nouvelle version le HD Face, on va être capable de faire vraiment de l'analyse de points singuliers sur le visage, pour donner un ordre d'idée sur l'évolution qu'il y a entre la V1 et la V2. Sur la V1, on était capable à peu près de repérer 100 points sur le visage de la personne. Là, avec le HD Face sur la V2, on est à 1000 points à peu près reconnus. Donc là également, on voit l'intérêt en termes de détection d'émotions, de signes particuliers, mais également en termes d'animation d'avatar. On va pouvoir avoir un mapping beaucoup plus précis entre les points d'un acteur réel et les points d'un avatar. Et puis on pourrait parler un certain nombre d'autres éléments. On a parlé de la voix, on a parlé du visage, mais il y a également toute la partie interaction, ce qu'on appelle interaction. Savoir que la personne regarde le dispositif, qu'il est en train de parler, qu'il porte des lunettes, qu'il a la bouche ouverte, et ainsi de suite. C'est des éléments qui vont enrichir quelque part l'expérience applicative qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec ce nouveau capteur. Et je termine juste sur un dernier point, fusion. L'analyse 3D, ça a été une petite révolution quand c'est arrivé avec la V1, être capable d'utiliser le capteur pour scanner en trois dimensions une pièce. Là également, on nous annonce une fusion avec cette Kinect pour Windows V2 qui va être encore meilleure. Alors pourquoi je dis on annonce, c'est que ces derniers éléments qu'on vient de citer ne sont pas encore présents dans le SDK, ils vont être ajoutés dans les prochaines semaines.
D'accord. Dans le SDK qui est toujours en bêta.
Qui est toujours en bêta.
Et les développeurs profitent de mises à jour régulières presque tous les mois.
Voilà.
Avec des mises à jour du SDK qui ajoutent au fur et à mesure des belles fonctionnalités.
Exactement. Alors, on a beaucoup parlé de ses capacités. Peut-être que tu pourrais nous faire une petite démonstration pour illustrer tout ça.
Tout à fait. Hop. Donc, Microsoft a fait un très bon travail pour créer un SDK et une API haut niveau pour le Kinect. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, la documentation est bien faite. Mais grosso modo, on a un objet Kinect Sensor et on peut parcourir les sources du Kinect et les explorer et récupérer les images, les frames composant le Kinect.
Donc là, on trouve les différentes frames, qu'on a évoqués.
Donc le flux couleur, le flux body, le flux masque, c'est body index, et le flux profondeur, et même les flux audio. On peut soit s'abonner, avoir un événement 30 fois par seconde, et recevoir les frames, soit on peut les pooler, les récupérer au fur et à mesure. Si on lance juste un sample, nous sommes toujours en version bêta, donc il y a pas mal de petits éléments à lancer avant d'avoir l'appli complètement fonctionnelle. Voilà, je viens de lancer l'application. Le flux couleur en haut, le flux profondeur en bas, c'est une sorte d'approximation. On a une précision, on va dire, au demi-centimètre ou même moins. Plus on est proche, plus on a de la précision. Pas trop proche, parce que l'appareil a des petits problèmes de vue, comme pour le premier Kinect. On profite aussi d'un outil qui s'appelle Kinect Studio, qui permet d'enregistrer les flux pour pouvoir les rejouer à foison, notamment pour les développeurs, pour les testeurs, pour ne pas avoir à rejouer la même scène, à se remettre debout pour tester.
Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, on est capable, avec cet outil, d'enregistrer une séquence, par exemple, de test d'une application, et puis de le rejouer
D'accord. Et on peut la rejouer autant de fois qu'on veut, sans avoir à se relever, notamment.
Donc utile quand on fait beaucoup de débugage.
Tout à fait. Là, on voit les flux, donc la partie couleur, la partie profondeur, la partie infrarouge à droite, et en jaune, le squelette. Alors, il y a quelques petites aberrations parce que ça ne voit pas le bas de mon corps, parce que je suis resté assis, mais on voit les mains et je vais mettre un peu plus en face. Quand j'ai la main fermée, ça apparaît en rouge, quand la main ouverte, c'est en vert. Deux doigts, c'est le mouvement qu'on appelle l'assaut, qui peut être détecté pour faire certaines gestures éventuellement dans une application.
D'accord. C'est donc assez précis. On retrouve en fait de la détection de gestes au niveau des mains directement intégrée dans le SDK.
C'est pas encore du finger tracking, mais on est quand même. On a le niveau de détail suffisant pour la majorité des applications. L'avantage de Kinect, c'est qu'on a les flux bruts, et si on veut développer son propre finger tracking, on peut le faire. D'accord. Microsoft fournit au moins le hand tracking et les interactions dont tu parlais tout à l'heure.
D'accord.
Ça capte en 3D, mais du coup, on peut un peu, en quelque sorte, numériser la scène, et c'est ce qu'on a dans cet exemple. On peut voir la scène actuelle. On peut voir la... Il y a eu un petit lag. Donc on peut voir la scène en 3D. Donc la scène actuelle, suis moi, et je peux faire pivoter le point de vue virtuel de la caméra. Et on voit quand même assez les détails du corps humain. Et pour revenir dans le flux infrarouge, c'est de l'infrarouge et on a les plis des vêtements, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez puissant et avec beaucoup de potentiel.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus maintenant sur l'architecture de développement qui est mise à disposition des développeurs, tout simplement?
Donc on a donc le Kinect, ce hardware, qu'on branche en USB, USB 3, parce qu'on est, comme tu as dit, en haute définition, donc ça, il faut une certaine bande passante. On peut en théorie brancher jusqu'à 2 Kinect sur un PC. Au-delà, on va dépasser la bande passante autorisée par le PCI, par la carte interne. Donc pour l'instant, 2 Kinect maximum. Le driver, évidemment. Et au-dessus du driver, on a le runtime qui va faire cette analyse logicielle des flux pour fournir le body et l'analyse de la voix et la corrélation des données.
Donc ça, c'est les couches basses, on va dire, les couches plutôt matérielles et SDK. Et alors, si je veux développer de l'application, quelque part, en exploitant ces capacités, quelles sont mes possibilités?
Juste avant ça, l'analyse de l'image va être déléguée au GPU.
D'accord.
Donc si on veut développer une application, il faudra un PC avec une carte graphique assez puissante, compatible DirectX 11. Mais pour le développement, après, on a un développement natif, donc en C++, comme on pourrait le faire, avec ces API qui sont utilisées même sur Xbox et par les développeurs chez Microsoft. On peut aussi faire du développement en .NET, donc C#, VB.NET et les autres langages de la plateforme. C'est ce qui est le plus utilisé actuellement par les développeurs quand ils font une application. On peut faire du WPF, XAML, ou même du WinForm, pourquoi pas. Ou une application console qui pourrait quand même récupérer des données et lancer des événements si le Kinect détecte quelque chose. Et la nouveauté du SDK de ces dernières semaines, c'est la possibilité de développer en utilisant l'API WinRT.
D'accord.
Donc on peut développer en C#, en VB, en JavaScript même, HTML5 JavaScript, ou en C++ CX.
D'accord.
J'ai bien dit WinRT pour développer et déployer des applications sur le store.
D'accord.
Donc tous les développeurs pourront déployer, créer une application et la déployer sur le store Microsoft. Malheureusement, vu les contraintes matérielles requises par le hardware, ça sera des applications qui ne tourneront que sur des PC Windows 8 Pro. Même si ça passe par le store, il faudra quand même un PC
D'accord,
complet.
D'accord, donc on exploite l'API WinRT, mais la cible, ça reste bien du Windows 8 Pro.
Tout à fait, du Windows 8 Pro. Et on profite du store pour donner de la visibilité aux applications pour le grand public.
Donc demain, je peux avoir mon application Kinect pour Windows sur le store.
Voilà.
Ouais, c'est formidable.
Et il n'y a pas vraiment de sens à le faire tourner sur une petite surface.
Oui.
Un appareil de ce gabarit sur une surface, là, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Du coup, on cible bien les desktops ou les laptops évolués.
Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, justement, sur toujours dans cette approche un petit peu de l'architecture, comment est-ce qu'on exploite les différents composants logiciels dans le
comme vu tout à l'heure, donc on a accès à un objet sensor.
D'accord.
Lui-même est composé de sources, donc les différents flux. Et pour récupérer les frames, il nous faut des readers, une sorte de data reader pour ceux qui ont fait du SQL, qui va récupérer les différentes frames. Et si on doit récupérer le flux couleur, le flux profondeur, l'audio, ça fait beaucoup de readers qu'il faudra synchroniser. Donc Microsoft fournit un multi-source frame reader qui va s'occuper d'agréger ces différents flux et les synchroniser pour envoyer en un coup, 30 fois par seconde, les différentes frames demandées.
Donc si j'ai besoin d'exploiter en même temps la profondeur, la couleur, éventuellement l'infrarouge ou le body, je suis sûr effectivement que j'ai une bonne synchronisation entre l'ensemble des signaux.
Et si l'un des flux passe en moins bonne qualité, par exemple pour des conditions lumineuses, on repasse en 15 frames, le multi-source frame reader va lui-même passer complètement en 15 frames par seconde.
D'accord, donc on maintient la cohérence.
Exactement.
Bon, très bien. Alors, on l'évoquait, hein, cet enregistrement fait suite à la build, et sur une conférence durant laquelle on a eu un certain nombre d'annonces concernant Kinect for Windows. Première bonne nouvelle, quelque part, c'est la disponibilité du capteur dès cet été.
Donc, cet été, on aura un capteur finalisé, voilà. Avec un SDK finalisé.
Voilà. Deuxième élément encourageant et plutôt bonne nouvelle là également, c'est cette capacité de créer des applications Kinect qui vont pouvoir être hébergés dans le Windows Store. Donc là, on l'a dit, cible Windows 8 Pro. Et le dernier élément également, qui est là également une très très bonne nouvelle, c'est le plugin Kinect incorporé directement dans Unity, qui va nous permettre de développer, enfin d'utiliser le moteur Unity sur des cibles qui peuvent être autant une application desktop qu'une application app classique, pourquoi pas du Xbox. Donc quelque part, une vue un petit peu universelle du déploiement de solutions Kinect à base de Unity. Donc là, ça nous promet, je pense, des bons développements en exploitant le moteur de rendu de Unity et de la 3D en l'occurrence. Peut-être une petite démo sur la partie store, ouais.
Tout à fait. Pour développer une application store pour Kinect, est-ce que c'est compliqué? Un petit spoiler, non, ce n'est pas compliqué. On crée un nouveau projet de type Windows Store XAML. On aurait pu choisir version JavaScript ou autre. Et en installant le SDK Kinect, version 2, on profite d'une extension qui s'appelle Kinect Preview. Nous sommes toujours en preview. Et dès ce moment-là, on va juste targeter le 64 bits pour être sûr. Et à partir de ce moment-là, dans le code XAML compatible Windows Store ou en HTML JavaScript, on obtient le namespace accessible et on peut récupérer un objet Kinect Sensor, récupérer le Kinect par défaut, et là on a toutes les sources qu'on a vues précédemment. Et donc très 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 facilement, on peut faire une application Kinect et la rendre disponible sur le store pour cibler un maximum de personnes ou faire des applications vraiment pour un besoin spécifique, mais les rendre déployables facilement.
D'accord. Et alors si on... imagine du développement multiplateforme. Alors quand je dis multiplateforme, je pense Xbox, je pense App, je pense Desktop. Aujourd'hui, c'est quoi les possibilités?
C'est une tendance que Microsoft a initiée il y a quelques années. C'était la stratégie 3 écrans qui maintenant passe presque même à 4 écrans avec la notion de phone, de tablette, d'ordinateur et de Xbox. Bon, pour la Kinect, on ne va pas parler de téléphone pour l'instant. Mais voilà, Microsoft veut une convergence des différents outils et ça va passer par le Windows Store. Donc actuellement, il est possible de développer des applications Windows Store pour Xbox One en HTML JavaScript. Mm-hmm. C'est réservé pour l'instant aux bêta-testeurs. Et donc, en un développement HTML JavaScript Windows Store pour Kinect, je pourrais cibler une tablette Surface Pro, par exemple, un PC et une Xbox One. Dans le futur, la Xbox hébergera sûrement des applications C-Sharp, XAML, Windows Store. Et donc, on aura encore plus de possibilités à venir. Si on veut encore plus de mutualisation. Comme tu disais, il y a le plugin Unity 3D pour Kinect, qui nécessite Unity Pro, mais qui permet d'avoir un wrapper qui uniformise l'API à travers les différentes plateformes, PC et Xbox. Le dernier élément, c'est C++ CX, qui permet aussi d'accéder aux couches bases du Kinect et aux couches un peu plus haut niveau, et les déployer sur les différentes plateformes. Donc on voit vraiment une convergence et une multitude d'outils et de possibilités pour faire des applications multi-écrans.
Alors, on le voit avec ce nouveau capteur, on arrive à une certaine maturité, on est sur une V2, on a des améliorations, on a des nouvelles possibilités qui nous sont offertes. On voit aussi que les usages se démultiplient, on l'a cité, tous les usages professionnels en début de diffusion. Quelque part, c'est quoi maintenant la prochaine étape pour entrer dans le vif du sujet avec Kinect pour Windows V2?
Bah, la prochaine étape, c'est de télécharger le SDK, au moins la version 1, et de mettre les mains dans le cambouis. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver les vidéos de la build sur Channel 9. Et si le sujet Kinect vous intéresse vraiment, vous pouvez rejoindre la communauté des développeurs Kinect de France, donc le Kinect Genius Bar. On a un groupe Facebook et des flux RSS, et un Twitter qui vous permettra de rester informé et de contribuer et d'échanger sur le sujet, et éventuellement poser des questions si vous avez des problèmes techniques.
Donc, en synthèse, à bientôt au sein du Kinect Genius Bar.
Rejoignez-nous. Merci.